Bon, semble-t-il que nous sommes pessimistes au sujet de nos dettes personnelles.
Oui, mais évidemment, c'est la firme MNP qui est aussi un syndic de faillite qui crée un indice pour faire parler d'elle. Ça, c'est normal, c'est une bonne stratégie marketing. Mais elle crée l'indice d'endettement des consommateurs et elle dit, bon, on est plus pessimiste qu'il y a 2 ans. Et on conclut quelque chose, c'est-à-dire, première des choses, un Canadien sur 5 déclare sa situation face à l'endettement qui est pire qu'il y a 5 ans. Bon, ça peut être pour des raisons de séparation, d'endettement supplémentaire ou autre. 49% disent, ben écoute, je vais avoir de la misère à payer mes dépenses par rapport à avant, il faut que je m'endette. Puis 30% sont non solvables, ça veut dire qu'ils sont incapables de faire leur paiement mensuel. Et 50% disent, hey, moi si j'ai 200$ de moins, ça n'arrive pas. Alors, que faire? Bon, évidemment, c'est un peu comme quand tu es malade, si tu vas pas voir le médecin, ça ne fonctionnera pas. Donc oui, le syndic est une option pour t'aider. Et la semaine passée, on a eu le cas d'une influenceur qui avait 50 000$ de dette en disant, j'ai des dettes d'études et des dettes d'impôts. Alors Paul, je me suis dit ce matin, on va parler des dettes qui sont possibles de libérer de la faillite et celles qu'on ne peut pas. Alors voici, la première dette que tu peux libérer grâce à la faillite, que tu peux pas, excuse-moi, c'est la pension alimentaire. Évidemment, tu peux pas appeler ton ex, excuse chérie, je vais faire faillite, je te verserai pas mon 350$ que je te dois depuis 3 mois, ça passera pas. Parce que la loi dit en somme, tu as un engagement qui persiste au-delà du fait que tu as des dettes totales.
OK.
Deuxième point. La fraude. Évidemment, si t'es un crosseur, puis tu détournes des fonds, tu peux pas t'en libérer, on voudra te punir jusqu'au dernier cent.
OK.
Troisième dette, les amendes, les pénalités, les infractions. Tu sais, disons que tu pognes beaucoup de tickets, tu peux pas déclarer faillite, même si t'as beaucoup, beaucoup de dettes, parce que le gouvernement veut son argent quand même. Tu sais, c'est pas parce qu'on roule à 100 km/h qu'on dépense comme un fou, qu'on se fera pas arrêter dans une zone de 30 avec un paiement à faire.
Okay.
Il y a aussi les indemnités à payer dans une affaire civile. Comme par exemple, si tu es coupable d'avoir causé des lésions corporelles à quelqu'un intentionnellement ou d'une agression puis qu'il y a une indemnité à payer, tu peux pas t'en sauver en déclarant faillite, sinon tous les criminels qui ont ce genre de jugement-là s'en sauveraient. Les montants auxquels aurait eu droit un créancier.
Sauf que dans les faits, quand l'agresseur a pas une scène, t'as beau essayer de collecter, là...
T'as raison, mais il pourra pas s'en sortir autrement. Okay. T'as beau essayer, tu peux le collecter toute ta vie si tu veux. L'autre point, quand tu t'en vas voir le syndic, faut pas que tu sois devant ton conseiller financier ou autre, que tu caches une coupe d'affaires. Si tu veux être libéré d'une dette, faut que tu la déclares. Fait qu'imagine, t'arrives devant le syndic, puis t'oublies 2-3 dettes de 30 000$ parce que t'es gêné d'en parler. Mais plus tard, tes créanciers reviennent et disent « Hey, moi, j'ai pas été mis au courant du principe de faillite, donc je suis... T'es pas libéré de ma dette, donc faut en parler. » Les dettes d'études, Paul. Les dettes d'études. On peut pas s'en sortir, parce qu'évidemment, à court terme, parce que sinon tout le monde finirait ses études, déclarerait faillite, donc partirait à zéro. Donc, le gouvernement veut que t'attendes 7 ans. Puis c'est pas fou, dans le fond. Au bout de 7 ans, si l'étudiant a développé une carrière, il a développé une capacité de payer... Puis s'il n'y a pas développé de carrière, tu peux dire, ben c'est vrai qu'on le plombe avec notre dette gouvernementale d'étudiant. Les dettes causées par une déclaration mensongère, hey, ça c'est dangereux. Il y a beaucoup de gens au Québec qui se font conseiller par des spécialistes d'immobilier de jouer un peu, disons, sur la limite des mots et de ne pas toujours déclarer que le mise de fonds de leur maison ou que leur dette, tu sais, tu fais une déclaration mensongère pour avoir du crédit. Le problème, si tu fais une déclaration mensongère pour obtenir du crédit, ben tu fais un acte qui est un peu illégal ou qui ne respecte pas les règles et donc une déclaration mensongère. Et par conséquent, si tu fais faillite, tu seras pas capable d'en sortir. Puis, dans certaines situations, les sommes versées en trop par l'aide sociale ou l'assurance chômage sont exclues de la faillite. Parce que ça dépend qu'est-ce que tu as fait, là. C'est un peu trop précis. Mais faites-vous-en pas. Si vous n'avez pas payé vos factures, votre téléphone, votre carte, votre marge de crédit, votre carte de crédit ou des prêts personnels, ça peut être intégré dans la faillite. Et ça, il n'y a pas de problème, Paul. On peut faire faillite pour ça.
C'est quand même une bonne liste.
C'est une bonne liste, quand même, une liste d'épicerie. Fait que là, tu sais, quand tu penses que la faillite est une solution magique, ça dépend. Fait que si tu fais tes études à 23 ans, faut que tu attendes à 30. Mais ça se peut qu'à 30, ça te tente pas, parce que ça te tente pas, parce que t'as peut-être une maison, t'as peut-être d'autres actifs. Donc, tu vois que c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc. Mais moi, je dis, c'est pas un comptable comme moi qu'il faut parler en premier. C'est à un syndic, ça va pas bien. Puis la première consultation est gratuite, je te répète, Paul.
Merci, monsieur.
Ce qui est gratuit, gratuit.
Oui, on apprécie tout le temps. Merci, il est 7 h presque 20.